Ceux que j'ai pas encore vus. Voilà. Alors, je suis devant vous ce matin parce que je suis la dernière oratrice d'une série de prédications sur la prière. Et je me suis dit que tous ceux qui ont été là les deux derniers dimanches, ce serait peut-être bon de se souvenir de ce qui a déjà été dit. Donc on va faire un petit QCM. Certains ont eu le papier en arrivant, d'autres ne l'ont pas, mais ce n'est pas grave parce qu'on va lire toutes les questions ensemble. Ce que je vous propose pour que ça soit un peu rapide, je vais lire la question, je vais lire les propositions de réponse. Et quand vous pensez que la réponse est bonne, alors attention, il peut y avoir plusieurs réponses bonnes dans un QCM, vous levez la main. Et puis on verra si tout le monde est d'accord pour ces réponses. Alors, on va commencer. Donc si... Voilà. Donc, si on commençait par un petit QCM. La première question. Alors, Alain, là, tu n'as pas le droit de répondre. Hein. Le message d'Alain sur la prière nous a parlé de prier avec des mains pures. Donc, si vous êtes d'accord, vous levez la main. Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne levez pas la main. C'est clair. Hein. Prier en tout lieu. La prière est la respiration de l'âme. La prière sacerdotale. Bon, ça va, ceux qui ont osé la main ou qui étaient là, vous avez tous bien répondu, c'était prier en tout lieu et la prière et la respiration de l'âme. Alain nous a rappelé que Dieu répond toujours tout de suite, jamais immédiatement, toujours selon notre requête, parfois par le silence, pas toujours comme on le souhaite. Ça va, c'était les deux dernières propositions qui étaient citées. Nous pouvons nous rappeler que la prière est un dur travail, que la prière est un style de vie. Voilà. Donc oui, c'est un style de vie. Merci Alain. Dimanche passé, Eric a médité sur une expérience de prière de Pierre, de Paul ou de Jacques. Ah, il n'y a pas beaucoup de réponses, mais c'était Paul, entre autres. La prière a permis de discerner la volonté de Dieu pour la création d'une église, pour l'excommunication d'un mauvais chrétien, pour l'envoi de deux missionnaires. Ouais, c'était ça, pour l'envoi de deux missionnaires. Dans cette situation précise, la prière était accompagnée de danses de louanges, du jeûne ou de déambulation. Oui, vous vous souvenez qu'il y avait aussi le jeûne à côté de cette prière. Alors, la réponse a été apportée à la prière d'une seule personne, du chef de l'Église, de la communauté, par le Saint-Esprit. Voilà, c'était les deux réponses, hein, de la communauté et par le Saint-Esprit. Et alors, Eric nous a encouragés à nous rappeler de ACC au sujet de la prière. Est-ce que c'était attente, célébration, communauté? Est-ce que c'était ascension, Christ et croix? Ou bien est-ce que c'était aspersion, charisme et consolation? Bon, en tout cas, ceux qui ont levé la main ont levé la main sur la bonne réponse. Il nous a rappelé que devant Dieu, nous sommes dans l'attente, la célébration et la prière aussi de la communauté. Voilà, ceux qui étaient là les deux dimanches ont bien suivi et se sont bien souvenus. Alors, j'aimerais revenir brièvement sur le texte qui a été cité par Alain dans sa prédication, 1 Thessaloniciens 5, 16 à 19. Il nous a particulièrement conduit avec le verset 17, « Priez sans cesse ». Quant à Éric, en nous rappelant que nous devions rester dans l'attente et dans l'écoute du Saint-Esprit, son message se rapportait plus au verset 19 qui nous exhorte « N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer ». Mais pour ma part, ce matin, j'aimerais m'arrêter sur les versets 16 et 18. Soyez toujours dans la joie. Remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Naturellement, lorsqu'une difficulté se présente à nous, nous nous tournons vers Dieu pour intercéder. Nous savons qu'il est le plus grand, le plus fort, le plus sage, le plus puissant. Alors cette attitude, c'est un véritable réflexe. Ça ne va pas, on va vers lui. Mais peu à peu, nos prières deviennent une longue litanie de demandes, parce qu'il y a tellement de circonstances où nous avons besoin de l'intervention de notre Père céleste. Notre Père, justement. Il y a parmi nous ce matin un certain nombre de pères. Alors, qu'est-ce qui vous réjouit le plus dans vos relations avec vos enfants, messieurs les papas? Lorsqu'ils sont là, sans arrêt, à venir vers vous, « Tu peux m'aider à mettre mes chaussures ?» Ça, c'est les tout-petits. Ils n'arrivent jamais à mettre leurs chaussures, il faut les aider. Mais « Tu pourrais m'acheter ça ?»« Tu peux augmenter mon argent de poche ?»« Tu peux me donner à manger ?»« Tu peux m'emmener à l'entraînement ?»« Tu peux me chercher au lycée ?» Est-ce que c'est ça que vous appréciez le plus dans vos relations avec vos enfants ? Ou bien lorsque dans un moment de tendre complicité, ils vous font un bisou, un câlin, ils vous disent « Tu es le plus beau, tu es le plus fort, je t'aime, tu sais toujours ce dont j'ai besoin, tu es le meilleur des papas. » Avouez que ces dernières circonstances ne sont pas les plus courantes, mais qu'elles font tellement de bien. Et vous qui n'êtes pas père, mais qui pouvez penser à votre père terrestre ou à celui que vous considérez comme tel, est-ce que vous ne vous trouvez pas dans un état d'esprit plus joyeux et plus serein lorsque vous laissez votre cœur déborder de l'amour que vous avez pour ce père, plutôt que lorsque vous êtes tout le temps en train de lui demander quelque chose? Notre relation avec Dieu présente les mêmes caractéristiques. Nous devons donc veiller à équilibrer nos conversations avec lui. Parce que Éric nous l'a rappelé la semaine dernière, la prière, c'est une conversation avec Dieu. Faite de paroles et de silence, d'élan d'amour et de confiance, de remerciements et de demandes, de pleurs et de rires. Si nous ne savons apporter devant Dieu que nos demandes et nos larmes, son cœur va se serrer et nous allons le priver de la joie qui lui revient. Alors, un de mes textes favoris de la Bible se trouve en Sophonie 3, les versets 17 et 18. « Car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un guerrier qui te sauve. » Et j'aime bien cette photo parce que le verset est au centre de la personne. L'Éternel est dans cette personne, vraiment. La façon dont là c'est représenté. Il sera transporté de joie à ton sujet et il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, à cause de toi, il poussera des cris de joie et il exultera tout comme au jour de fête. Dieu se réjouit à cause de moi. Il pousse des cris de joie. Mais si je viens vers lui que pour lui présenter requête après requête, est-ce qu'il va continuer à éprouver cette joie exaltante? Alors, 1 Thessaloniciens 5, 18, c'est un texte vraiment fort, rappelez-vous. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Remercier Dieu, c'est un ordre. Ce n'est pas seulement quand tout va bien, mais aussi quand ça ne va pas. Est-ce que nous n'aimons pas Dieu lorsqu'une difficulté surgit? Est-ce que la difficulté, l'épreuve détruisent les sentiments? Ou bien sommes-nous tellement ingrats? Alors j'ai trouvé une anecdote dans un livre qui s'appelle « 365 histoires » de Jean-Louis Gaillard. Un bateau échoué près de la côte lançait des appels de détresse. Un sauveteur bénévole, le docteur Chalmers, se jeta à l'eau. Une fois, deux fois, trois fois, il ramena à la nage un pauvre naufragé. Mais le troisième sauvetage faillit lui être fatal. Il dut être hospitalisé. Quelques années plus tard, le prédicateur Moody évoquait dans une réunion ce triple sauvetage pour illustrer le message de l'Évangile. On vint lui dire que Chalmers était précisément dans la salle. Moody invita cet homme courageux à venir sur l'estrade et lui demanda ce qui l'avait le plus frappé dans cet événement inoubliable. « Eh bien, répondit Chalmers, c'est qu'aucun de ces trois hommes ne soit jamais venu me dire merci. » Et puis Jean-Louis Gaillard continue. « Une autre histoire vraie, bien différente, nous revient à la mémoire, celle d'une pauvre femme qui manqua de se noyer elle aussi pendant qu'elle lavait du linge à la rivière, et fut sauvée par un passant. « Oh, monsieur, s'écria-t-elle, vous m'avez sauvé la vie, et je n'ai rien à vous donner pour vous remercier. Rien que ce baquet dans lequel je lave le linge du village. » C'était son gagne-pain, ce qu'elle avait de plus précieux. Le sauveteur refusa, bien sûr. Quel contraste entre la fin de ces deux récits. Chrétiens, nous avons été sauvés d'un éternel désastre par le dévouement de notre grand sauveur. Ne soyons pas ingrats, n'oublions pas de le remercier. Alors voilà, dans ces deux anecdotes, on voit deux situations. L'oubli pur et simple de remercier, mais je ne pense pas que ce soit notre cas, parce que nous savons si bien l'amour de celui qui nous a sauvés. Mais aussi la reconnaissance infinie d'une femme qui veut tout donner à son sauveur. Et c'est là que nous sommes souvent démunis. Lorsque nous voulons remercier Dieu, nous sommes à court de mots. Notre cœur déborde et nous ne savons pas l'exprimer, tant il est parfois difficile de dire à quelqu'un qu'on l'aime. On ne trouve pas les bonnes paroles, on bafouille, on devient timide. Alors pour nous, ce matin, j'ai choisi de parcourir quelques magnifiques déclarations qui ont été faites ou qui ont été suscitées par le roi David dans l'Ancien Testament. Alors le premier texte, je vais seulement le citer, hein, je ne vais pas le lire parce qu'il est très long, mais je sais que certains ne connaissent pas ces textes parce que c'est les chroniques. Et dès que je dis chronique, il y en a, ça devient viscéral, il commence à trembler, parce que quand on commence à lire le livre des chroniques, les 9 premiers chapitres, ce ne sont que des généalogies. Et comme ça ne fait pas partie de notre culture, on n'y comprend rien, on n'y trouve rien, puis finalement on abandonne et on passe à un autre livre. Mais en fait, il y a plein de choses très intéressantes, même dans les chroniques, si on est curieux de les lire un peu. Les noms ne sont pas toujours faciles à prononcer, mais voilà. Et donc ces trois textes qui sont dans le livre des chroniques, le premier est au chapitre 16, le verset 8 à 36. Donc si vous voulez le lire, vous notez dans votre tête ou vous venez me redemander à la fin du culte les références et puis vous le lirez tranquillement chez vous. Et ceux qui sont curieux, vous verrez que ça reprend des textes de certains psaumes ou que certains psaumes sont inspirés de ce texte. Donc c'est le premier cantique pour célébrer l'Éternel, nous dit-on au verset 7. Alors ce premier texte est divisé en trois parties. Selon moi, en tout cas. Les versets 8 à 15, Dieu est loué pour qui il est personnellement. Ah oui, ce n'est pas David qui prononce ce texte, c'est Asaph, et je voulais qu'on reste avec cette image de louange pendant tout le temps de cette explication. Dieu est loué pour qui il est glorieux, très saint, fort, il a accompli des merveilles, des prodiges, il a prononcé des jugements justes. Il a choisi son peuple, il gouverne, il a donné ses promesses. Et moi, ce qui m'a frappé dans l'expression de cette louange, des versets 8 à 15, c'est le verset 10. « Soyez fiers de lui, car il est très saint », nous dit la Bible Semeur 2000. « Placez votre fierté en son saint nom », dans la traduction Second 21. Et si vous avez fait attention... Alors, Monique et moi, on ne s'était pas concertés, on ne savait pas sur quoi j'allais prêcher ce matin, mais elle a cité le psaume 34 le verset 3 et elle a lu « Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel ». À nouveau, la même expression. C'est quoi la fierté ? C'est avoir le cœur gonflé d'orgueil au sujet de quelque chose ou de quelqu'un. Et en tant que chrétien, on nous dit toujours que l'orgueil, c'est mauvais. Et pourtant, là, on est encouragé à être plein de fierté pour notre Dieu. Et ça me montre que cette reconnaissance envers Dieu, ce n'est pas juste une manifestation extérieure d'adoration. C'est vraiment moi qui m'implique. Être fier de Dieu, c'est un paradoxe. Nous nous comportons souvent de façon à ce que Dieu soit fier de nous. Hein, on se comporte bien, on fait ce qu'il nous demande et tout pour qu'il soit fier de nous. Mais là, c'est le contraire qui est proclamé. Alors, on peut aussi modifier notre façon de louer, nous considérant comme étant vraiment partie intime de sa famille et être fier de Dieu, ne pas avoir peur dans la rue parce qu'on est chrétien, on est fier. Et le vivre, que ça transpire de notre personne. C'est quelque chose pour une façon de voir pour laquelle, à laquelle je n'avais jamais pensé. Alors quand je pense à une famille sur la terre, hein, une famille terrestre, on éprouve souvent le besoin d'être fier, fier de nos enfants, de leurs résultats scolaires, fier de notre papa, de son métier, fier de notre maman, de son intelligence par exemple, fier de notre épouse, de notre mari. Alors oui, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons être fiers. Et là, moi, je vais vous laisser trouver toutes les raisons d'être fiers de Dieu. À vous de les chercher. Pourquoi est-ce que vous êtes fiers de Dieu, votre Papa Céleste ? Dans les versets 16 à 22 du texte que j'ai cité, Dieu est cité et reconnu comme étant le Dieu fidèle qui tient les promesses faites à Israël. Cette partie de texte nous rappelle les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob, puis au peuple d'Israël. Et nous sommes leurs descendants, rachetés par le sang de Jésus. Nous pouvons nous réjouir de ce qui est alors déclaré à notre sujet. Ne maltraitez pas ceux qui me sont consacrés, ne faites pas de mal à ceux qui sont mes prophètes. Et nous aussi, nous le sommes. Ce n'était pas seulement valable pour l'Ancien Testament, dans les Chroniques. Dieu veille sur nous et nous pouvons, en compagnie d'Asaph, chanter à la gloire de Dieu. Et enfin, la troisième partie du texte, versets 23 à 36, nous parle de l'amour de Dieu pour la terre entière, aussi bien les humains que l'ensemble de sa création, ciel, terre, mer, campagne, bois, arbres. Et cet amour est exalté en tout temps. Alors, vous connaissez ce chant, on ne l'a pas chanté ce matin, vous bondirez de joie. Montagnes et collines éclataient de joie. Est-ce que nous savons voir que la création entière fait la joie de Dieu et qu'elle célèbre ses louanges ? Ce n'est pas très rationnel, des fois les arbres battront des mains. Est-ce que vous arrivez à imaginer ça ? Est-ce que vous arrivez à dire ça dans votre louange ? C'est difficile, hein, on est français, on est cartésien. Ça ne participe pas à notre façon de voir et d'appréhender les choses. Mais Dieu, est-ce qu'il est français ? Est-ce qu'il est cartésien ? Est-ce qu'on ne devrait pas parfois aller plus loin que toute notre culture, que tous nos interdits pour louer Dieu, pour le prier ? Alors, sur mon texte, j'ai mis dans une autre vie, c'est dans un temps où on était dans une autre église. Je l'avais partagé avec certains, j'ai déjà prié pour que Dieu permette qu'il y ait des promotions dans le supermarché où je faisais mes courses, pour que je puisse acheter de la viande ou des légumes moins chers pour organiser le repas fraternel dans mon église. J'étais la responsable pour les repas communautaires dans cette église. Et bien, à chaque fois, ça a marché. Ce n'était pas qu'une fois, hein. Je l'ai fait 5-6 fois, ça a marché. Et j'ai loué Dieu parce que Dieu est le Dieu des promotions du supermarché. Il n'est pas éloigné de nos préoccupations quotidiennes. Il se réjouit lorsque nous voyons qu'il agit dans nos vies, dans tous les domaines. Je vous ai parlé de trois textes de chronique. Alors, on va lire le deuxième. Il est dans 1 Chronique 17, les versets 16 à 27. Alors le roi David alla se placer devant l'Éternel et lui adressa cette prière. « Éternel Dieu, qui suis-je et qu'est donc ma famille pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ?» Et comme si ce n'était pas suffisant à tes yeux, « Ô Dieu, voilà que tu fais à ton serviteur des promesses pour l'avenir lointain de sa dynastie. Éternel Dieu, tu me traites comme si j'étais un homme de haut rang. Que pourrais-je encore ajouter au sujet de la gloire que tu accordes à ton serviteur ?» Tu connais toi-même ton serviteur. Éternel, c'est parce que tu aimes ton serviteur et que tu en as décidé ainsi que tu as accompli ces grandes choses pour révéler ta grandeur. Éternel, il n'y a personne comme toi. Il n'existe pas d'autre Dieu que toi. C'est vraiment comme tout ce que nous avons entendu dire. Y a-t-il une seule nation sur terre qui soit comme Israël, ton peuple ? Que Dieu soit allé libérer pour en faire son peuple ? Ainsi, tu t'es rendu célèbre en accomplissant des choses grandes et redoutables pour chasser des nations devant ton peuple que tu as libéré de l'Égypte. Tu as fait de ton peuple Israël ton peuple pour toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant donc, ô Éternel, que soit toujours vraie la promesse que tu as faite à ton serviteur et à sa dynastie. Oui, veuille l'accomplir et que cette promesse se confirme. Ainsi, tu seras éternellement exalté et l'on proclamera que l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël est vraiment Dieu pour Israël. Et que la dynastie de ton serviteur David demeure stable devant toi. En effet, ô mon Dieu, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtirais une dynastie. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. Maintenant, ô Éternel, c'est toi qui es Dieu. Et tu as promis ce bonheur au sujet de ton serviteur. Et à présent, tu as bien voulu bénir ma dynastie pour qu'elle subsiste à jamais devant toi. Car ce que tu bénis, Éternel, est béni à jamais. Est-ce que vous imaginez dans quel contexte David a prononcé cette prière ? Il se sentait interpellé parce qu'il habitait dans un palais alors que la maison de Dieu n'était qu'une simple tente. Mais Dieu lui déclare, par l'intermédiaire du prophète Nathan, que c'est un de ses descendants qui lui construira un temple. David a dit, moi je vais construire un temple. Nathan lui dit, non, Dieu dit que ce n'est pas toi qui vas le faire. Eh bien, loin de se fâcher de voir son rêve être détourné par Dieu, David éclate en cri de reconnaissance devant Dieu. Nous pouvons admirer l'humilité de David. Il ne voit pas ce que Dieu ne lui accorde pas. Il se réjouit de tout ce que Dieu a fait pour lui et de tout ce qu'il prépare pour sa descendance. Sa première phrase est « Qui suis-je et qui est ma famille ?» lorsqu'il réagit à ce que Nathan lui dit. Et moi, j'ai honte en lisant ça, parce que je me souviens de certaines fois où j'ai crié à Dieu parce que ma vie n'allait pas dans le sens que j'avais imaginé. J'étais prête à faire des reproches à mon Seigneur au lieu de déclarer « Qui suis-je ?» et de me demander si j'avais le droit d'exiger. Rien de tout cela chez David. Rappelez-vous ce que nous venons de lire au verset 19. « C'est parce que tu aimes ton serviteur et que tu en as décidé ainsi. Suis-je capable d'éprouver ce haut degré de reconnaissance ?» Toute cette prière de reconnaissance est un hymne à la grandeur et à la gloire de Dieu. Si nous manquons de mots pour exalter notre Dieu, nous pouvons nous en inspirer sans problème, en les prononçant avec la même humilité que celle du roi David. Et le troisième texte que j'ai choisi, il est au chapitre 29 de 1 Chronique, les versets 10 à 19. C'est une prière de reconnaissance pour tous les dons dont Dieu nous comble. Avant de mourir, David a eu à cœur de rassembler les matériaux pour que son fils puisse construire le temple de Dieu, puisque ça sera à lui de le faire. Il constate alors la prodigalité de Dieu qui permet que bien plus que ce qui est nécessaire soit collecté. Il reconnaît que Dieu met dans notre cœur le vouloir et le faire. Tout nous vient de Dieu. Et ce que nous pouvons lui apporter, c'est d'abord lui qui nous l'a donné. Lisons ce texte. David loua Dieu devant toute l'assemblée en disant « Loué sois-tu à tout jamais, ô Éternel, de notre ancêtre Israël. À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance et la magnificence et la gloire et la majesté. Car tout ce qui est dans le ciel est à toi, Éternel. C'est à toi qu'appartient le règne. Tu es souverain au-dessus de tout être. Et c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Tu domines sur tout et dans ta main réside la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever qui tu veux et de le rendre fort. C'est pourquoi, notre Dieu, nous te louons, nous célébrons ta gloire. Car qui donc suis-je et qui donc est mon peuple pour avoir les moyens de t'offrir de tels dons? Tout cela vient de toi et c'est de ta main même que nous avons reçu ce que nous te donnons. Nous sommes devant toi comme des étrangers, des hôtes, tout comme nos ancêtres. Notre vie sur la terre est aussi éphémère qu'une ombre passagère qui passe sans espoir. Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que nous vient toute cette fortune que nous venons de réunir pour te bâtir un temple qui portera ton nom, toi qui es saint. Tout cela t'appartient. Je le sais, ô mon Dieu, tu sondes notre cœur et tu as du plaisir lorsque quelqu'un est droit. Eh bien, c'est d'un cœur droit que je t'ai apporté tous ces dons volontaires et j'ai vu avec joie ton peuple ici présent apporter ces dons volontaires. Ô Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, conserve pour toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions, ses pensées, et maintiens fermement leur cœur tourné vers toi. À mon fils Salomon, donne un cœur sans partage, afin qu'il obéisse à tes commandements, tes ordonnances et tes lois, et les applique tous, et qu'il bâtisse le palais en vue duquel j'ai fait tous ces préparatifs. Alors là encore, David ne dit rien de bien sur lui, mais il exalte Dieu et il demande des choses pour son fils et pour son peuple. Alors dans ce cas, il s'agit de dons matériels pour construire un luxueux palais à notre Père Céleste. Mais Dieu continue de mettre en nous toutes sortes de dons pour que nous les mettions à sa disposition. Est-ce que nous savons les reconnaître, les utiliser ? Remercier Dieu de les avoir mis en nous. David déclare, tout cela vient de toi et c'est de ta main même que nous avons reçu ce que nous te donnons. Mon frère, ma sœur, si tu es doué pour le chant, pour le bricolage, pour jouer de la guitare, pour enseigner, pour t'occuper des enfants, pour astiquer les meubles, est-ce que tu remercies Dieu pour cela ? Est-ce que tu mets ces dons au service de Dieu ? David montre aussi l'humilité qui habite son cœur. Car qui donc suis-je et qui donc est mon peuple ? Avons-nous lu. Bien que roi, il ne se met pas en avant. Il s'identifie au peuple que Dieu lui a confié pour le diriger. Lorsque nous mettons nos dons au service de Dieu, il attend que nous montrions une même disposition de cœur. Si j'accomplis tel ou tel service, ce n'est pas pour me montrer, comme on dit parfois au Cameroun, c'est pour rendre gloire à Dieu. Pourtant, si j'accomplis tel ou tel service, je dois remercier Dieu de m'avoir donné les capacités de le faire. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la reconnaissance. Et Dieu attend de nous que, tout comme le roi David, nous soyons reconnaissants. On l'a vu dès le départ. Alors certains d'entre nous ont parfois du mal à discerner, savoir, comprendre quels sont le ou les dons que Dieu leur a accordés. Comment savoir pourquoi être reconnaissant ? C'est si compliqué parfois. Lorsque nous étions missionnaires, Hervé et moi, nous avons été impressionnés par la foi simple de nos frères et sœurs camerounais. Lorsque nous avions un moment de prière en début de journée, à plusieurs reprises l'un ou l'autre dans des lieux divers, a commencé sa prière de cette façon. « Merci Seigneur de m'avoir donné la vie. J'étais comme un morceau de bois durant ma nuit de sommeil. Mais toi, tu as mis ton souffle de vie en moi. alors je peux continuer à te servir jusqu'au moment où j'irai de nouveau me coucher. Quel exemple pour nous ! Pas de réflexion compliquée, simplement l'assurance que chaque matin le souffle de vie nous vient de Dieu et que s'il met ce souffle en nous, c'est tout simplement pour le servir. Nous avons besoin régulièrement d'entendre de tels témoignages pour nous booster, n'est-ce pas ? Alors à la fin de ce message, j'aimerais vous rappeler ce que nous avons pu apprendre au sujet de la prière grâce à ce premier livre des Chroniques. Nous appartenons à la famille de Dieu et nous pouvons proclamer toutes les raisons d'être fiers de notre Père céleste. Nous pouvons remercier Dieu pour les promesses qu'il nous a faites et parce qu'il veille sur nous. La création entière loue et célèbre Dieu. Nous pouvons oser remercier Dieu pour des événements qui nous paraissent incongrus ou insignifiants. Nous restons humbles, comme l'était le roi David en nous plaçant devant le roi des rois. Dieu sait pourquoi il choisit de nous répondre de telle ou telle façon. Accueillons sa réponse avec reconnaissance. Dieu nous accorde le souffle de vie. Louons-le tout simplement pour cela, car tout ce que nous possédons, y compris et surtout ce souffle, tout nous vient de lui. Que ses pensées, ses vérités nous guident tout au long de la semaine de prière qui va s'ouvrir pour notre Église. Sachons reconnaître qui est Dieu, ce qu'il a fait dans nos vies et ce qu'il fait encore maintenant, comment il agit dans ce monde. Soyons reconnaissants et à l'écoute de ce qu'il veut nous dire, sans mettre en avant nos propres demandes. Pour terminer, je prononcerai cette prière qui est tirée de notre livre de méditation quotidienne à Hervé et moi. Pour ceux que ça intéresse, c'est les psaumes de Jésus chaque jour de l'année de Timothy et Cathy Keller cette année. Seigneur, bon nombre de mes problèmes découlent du fait que je ne prends pas le temps d'orienter mes pensées vers toi. Comme je ne tiens pas compte de ta sagesse, je me fais du souci. Comme je ne me souviens pas de ta grâce, je deviens arrogant. Comme j'oublie ta compassion, je développe du ressentiment envers les autres. Aide-moi à me rappeler qui tu es à chaque instant de la journée. Amen. Et pour poursuivre notre...